Le retour à la maison. Chapitre 3. La veille de notre départ pour Réchamps, toute sa belle humeur lui revint et le rendit même loquace, jusqu'à me faire des confidences. Vous vous êtes montré un tel ami pour moi que j'éprouve le besoin, étant donné ce que vous êtes appelé à voir, de vous expliquer certaines choses. C'est à propos de ma famille. L'esprit de mon milieu doit être si différent de tout ce à quoi vous êtes habitué dans votre heureux pays de liberté. Mais peut-être pourrais-je vous faire comprendre. Je devinais ce qu'il voulait. Me parler de la jeune fille qui était sa fiancée. Mademoiselle Malo, restée orpheline à 10 ans, avait été la pupille d'un voisin des Réchamps, vieux grand seigneur décavé, avec un nom illustre et un château signalé aux touristes, seul débris de sa fortune passée qu'eût respecté le baccarat. À 50 ans, il ne lui restait plus qu'à faire pénitence, à supporter des accès de goutte et à mener la vie d'un agriculteur. Le père d'Yvonne Malo était un peintre d'un certain talent qui mourut jeune. Sa femme, qui ne lui survécut qu'un an ou deux, était d'origine polonaise. Vous pouvez vous imaginer si une fillette avec de pareils ascendants était faite pour venir s'enterrer dans un château au fin fond de la campagne française, sous les yeux vigilants d'un vieux goutteux repentant. Le marquis de Corvenère, c'était son nom, amena sa pupille dans sa retraite et appela près de lui sa sœur, une digne vieille fille, qui éleva Yvonne très convenablement, selon toutes les apparences. De temps en temps, l'antique landau du marquis l'amenait à Réchamps pour jouer avec les enfants. Et le premier souvenir que Jean avait d'elle était celui d'une petite fille fort laide, affublée d'une jupe de plaid, qui inventait des jeux extraordinaires dont elle était déjà lasse au moment où les autres enfants commençaient à les comprendre. Mais son ton d'autorité et ses questions bizarres n'étaient pas du goût de Madame de Réchamps, qui ralentit ses invitations. Quand Yvonne eut 17 ans, son tuteur mourut, lui laissant un petit pécule. La vieille demoiselle tomba en enfance. Il n'y avait plus personne pour s'occuper de Mademoiselle Malo. Elle alla à Paris retrouver une tante dont elle secoua le joug dès qu'elle fut majeure. Elle prit alors un atelier, voyagea, fit de la peinture, joua du violon et se lança dans de nouvelles et nombreuses relations. Jean ne compta plus pour elle jusqu'au jour où, environ 1 an avant la guerre, elle eut à revenir pour s'occuper de ses intérêts quand on vendit le château du marquis de Corvenère. Les vieux Réchamps connurent son retour, mais ne l'invitèrent pas à demeurer chez eux. Jean, cependant, alla lui faire visite dans le château, lugubre, avec tous ses volets fermés. Il la trouva en train de déjeuner sur un coin de la table de la cuisine. Elle s'écria, en lui tendant les bras, « Mon petit Jean !» se jeta à son cou, l'embrassa sur les deux joues et l'invita gaiement à s'asseoir et à partager son omelette. La petite fille fort laide avait secoué sa chrysalide et on peut s'imaginer que Jean ne se fit pas beaucoup prier pour revenir. Mademoiselle Malo vivait toute seule. La femme du fermier préparait son dîner, mais la nuit, elle restait seule dans ce château désert, avec son grand chien de berger gris. Elle devait y être retenue une semaine et Jean se décida à demander à ses parents de l'inviter à Réchamps. Il y eut conseil de famille. On hésita, on détourna les yeux. Les chambres d'amis étaient sans dessus-dessous. Le valet de chambre avait les oreillons. La cuisinière n'avait personne pour l'aider. Enfin, la grand-mère trancha la question en déclarant avec une solennité définitive « Une jeune personne qui a décidé de vivre seule préfère probablement vivre seul. » Il se fit un silence de mort. Jean n'insista pas, mais je vois d'ici comment l'expression de ses yeux bleus dut se durcir. Peu de temps après le retour à Paris de Mademoiselle Malot, il l'y suivit et devint un fidèle visiteur de l'atelier de Passy. La vie qu'on y menait lui sembla différente de tout ce qu'il avait jamais pu voir ou même imaginer. Il avait connu des échantillons courants de jeunes françaises et exploré des milieux sociaux très différents. Mais le type le plus nouveau, celui de l'artiste femme émancipée, lui avait justement échappé. « Je ne connais pas beaucoup ce genre-là, moi non plus. » À l'entendre, ses adeptes me rappellent assez certaines Américaines intelligentes, si ce n'est que celles-ci ne mettent pas toujours leur vie réelle au diapason de leurs audaces artistiques. Mais pour Réchamp, la grande découverte fut la jeune fille nouveau jeu. Apparemment, il n'avait jamais connu que le type classique qui domine en province et qu'on trouve encore, prétend-il, dans les derniers retranchements de l'austère faubourg Saint-Germain. Mais une jeune fille qui va et vient comme il lui plaît, qui lit tout ce qui lui passe par la tête, se forme une opinion sur ses lectures, s'exprime, regarde et se tient comme une femme mariée, tout en gardant la fraîcheur d'une Diane. Quel bouleversement dans l'esprit d'un garçon qui a hérité un bagage d'idées toutes faites et de principes inébranlables. Mademoiselle Malot rendit Réchamp très amoureux d'elle, mais elle fit bien plus encore. Elle transforma de fond en comble sa manière de voir en toutes choses et le libéra à tout jamais des préjugés héréditaires. Bientôt, ils s'avouèrent simplement leur amour, tout comme n'importe quel petit couple d'outre-mer, et Jean alla à Réchamp demander la permission de l'épouser. Démarche toute naturelle en France, mais qui nous étonne tant, nous autres Américains, de la part d'un garçon de 27 ans qui connaît la vie. Jean demanda donc le consentement de son père, de sa mère et de sa vieille grand-mère. Tous, d'un commun accord, le lui refusèrent. Cela souleva même une tempête, et c'est la grand-mère qui cria le plus fort. Épouser Mademoiselle Malot, une jeune fille qui vivait seule, qui voyageait, qui passait son temps avec des étrangers et des gens impossibles, comme des musiciens et des peintres. Une jeune fille, encore, si elle avait été une femme mariée, une veuve, ils auraient pu, à la rigueur, par affection pour lui, se résigner à un choix aussi différent de ce qu'ils avaient rêvé. Dieu sait qu'ils eussent préféré une jeune fille. Ils eussent cependant accueilli même une veuve, dont le genre fut au moins correct. Mais l'idée d'amener une jeune personne aussi lancée à Réchamp, pour vivre sous le même toit que leur petite Simone et leur innocent Alain. Cela avait duré une heure. Lui avait tenu bon, opposant son silence à leurs cris, gardant tout son calme, et se raidissant à mesure que l'excès de leur colère semblait céder à la fatigue. Enfin, il prit sa mère à part et essaya de la raisonner. Ses raisons ne semblèrent pas l'influencer, mais la fermeté de sa résolution l'impressionna, et il s'en aperçut. Quant à son père, Jean savait à quoi s'en tenir. Monsieur de Réchamp n'en imposait à personne. Il suffisait qu'il eût dit « Jamais, jamais tant que je vivrai, jamais tant qu'il y aura un toit sur mon château » pour qu'on sût qu'il avait déjà cédé dans son fort intérieur. Seule, la grand-mère était terrible, à cause de son âge avancé et de l'habileté avec laquelle elle en profitait. Elle avait un truc particulier pour se donner une sorte de crise cardiaque, rien qu'en restant assise, immobile, et en retenant son souffle. Depuis longtemps, Jean et sa mère avaient découvert ce stratagème, dont elle jouait dès que les choses ne marchaient pas à son idée. Madame de Réchamp promit à Jean de tâcher de fléchir sa belle-mère, sans pourtant croire au succès de la tentative. En revenant trouver son fils, elle dit en soupirant « Eh bien, elle est là, assise, et elle retient son souffle. » Le lendemain, Jean affronta lui-même la terrible aïeule. Elle était la personne la plus intelligente de la famille et savait que son petit-fils le savait. Elle l'aimait même davantage pour avoir fait cette découverte. Aussi, lorsqu'il était seul en face d'elle, l'écoutait-elle sans recourir aux menaces de crise cardiaque. « Voyons, grand-maman, lui dit-il, vous êtes bien trop intelligente pour ne pas comprendre que les temps sont changés et que les idées et les manières ont marché avec eux. Aujourd'hui, une femme semblerait ridicule en ne faisant pas certaines choses pour lesquelles on l'aurait critiquée hier. Toutes, ou presque toutes, les conventions sociales ont disparu. Les gens intelligents s'en moquent. Elles n'avaient de raison d'être que tant qu'elles étaient prises au sérieux. » La grand-mère écouta avec une lueur d'admiration étonnée dans les yeux. « Et cela ne peut certainement pas être la raison réelle pour laquelle vous vous opposez à mon mariage avec une jeune fille que vous avez toujours connue, qui a été reçue ici. Ah, mais justement, c'est que nous l'avons toujours connue, dit-elle en l'interrompant sèchement. Eh bien quoi? Je ne vois pas. Naturellement. Tu es si peu ici qu'il y a bien des choses que tu ne vois pas.
Quelles choses?
Des choses qui voltigent dans l'air. Tu faisais ton service militaire à ce moment-là.
Mais quand? Quoi? À quel moment?
Elle se pencha en avant et posa sa main sur le bras de son petit-fils.
Pourquoi Corvenaire lui a-t-il tout laissé? Pourquoi?
Mais pourquoi ne lui eut-il pas tout laissé? Balbutia Jean, bouillant d'indignation.
Alors, elle vida tout son sac. Une masse de vagues et perfides insinuations, de conjectures sans fondement, de caquets de village. Le tout fondé, il le lui prouva entièrement, sur un mot lancé au hasard par une fille de cuisine congédiée qui avait confié ses griefs à la servante du curé.
« Oh, elle fait ce qu'elle veut de monsieur le marquis, la jeune demoiselle. Elle sait s'y prendre. »
Et de cette simple phrase, le voisinage avait fait un réquisitoire accablant.
Réchamp le réduisit à rien, ou du moins le crut. Il ne s'emporta pas, fit une enquête sur le rapport de la servante, en prouva la fausseté, mit même en doute la discrétion de la servante du curé, enfin écrasa sous le poids du ridicule ceux qui avaient répandu ces fables stupides et ceux qui y avaient ajouté foi. Si bien que sa grand-mère, un peu honteuse d'avoir semblé établir son refus sur de telles sornettes, capitula et décida ses parents à se rendre avec elle. Tout cela se passait peu de semaines avant la guerre. Presque aussitôt, Mademoiselle Malot vint à Réchamp. Jean y avait tenu beaucoup. Il voulait que le voisinage l'y vît installée comme sa fiancée. Quant à elle, elle parut enchantée. Je devinais au ton de Réchamp, quand il en arriva à ce point de son récit, qu'il s'attendait à ce que Mademoiselle Malot, dans ma pensée, dût avoir montré une certaine résistance de bon ton et se fût drapée dans sa dignité. Il sembla soulagé quand je lui affirmai que je n'avais pas eu cette pensée. C'est la simplicité même. Voilà sa qualité dominante. Les complications inutiles n'existent pas pour elle, par la bonne raison qu'elle ne les voit pas. C'est ce que mes parents ne peuvent arriver à comprendre. » Je conclus de cette dernière phrase que cette visite n'avait pas été précisément un succès. Et je compris pourquoi Jean avait failli m'avouer
en me parlant de ses craintes pour sa famille, que sa fiancée n'avait certainement pas dû rester à Réchamps au moment de la déclaration de la guerre, si elle avait pu faire autrement. « Voyez-vous, m'expliqua-t-il avec un sourire un peu embarrassé, cela a été un peu de sa faute. Une autre jeune fille aussi intelligente, mais, comment dirais-je, moins fière, se fût adaptée au milieu, aurait arrangé les choses, évité les sujets trop brûlants. » Yvonne eut cru s'abaisser. Elle parla avec mes parents tout naturellement, comme avec moi. Vous pouvez vous figurer, par exemple, l'effet d'une phrase comme celle-ci. Un soir, à minuit, après un souper à Montmartre, je rentrais à pied avec deux ou trois camarades. C'était sa manière de se montrer telle qu'elle était, loyalement. Et j'adorais cette franchise, tout en souhaitant qu'elle en eût moins. Il décrivit, à mon grand amusement, la procession des voisins venant solennellement, dans leur vieux carrosse, faire leur visite de félicitations, les mères seules, avec des excuses gênées pour leurs filles qui n'avaient jamais pu venir. Et lui, toujours tremblant, se demandant avec angoisse, pendant toute cette cérémonie, si Yvonne les recevrait les yeux baissés et les mains croisées, dans une pose classique de fiancée écoutant les compliments, ou, si elle ne profiterait pas de cette occasion, pour donner quelques aperçus de ses idées sur la séparation de l'Église et de l'État, ou sur la nécessité de modifier les lois sur le divorce. « Ce n'est pas, expliquait-il ensuite, que ces questions la passionnent si vivement. Elle ne s'intéresse vraiment qu'à sa peinture et à sa musique. Mais tout ce qui lui tombe sous les yeux ouvre un champ nouveau à son imagination. Comme elle me le dit un jour, ce sont les chapeaux des amis de votre mère qui font de moi l'avocat du divorce. » Et tristement, il ajouta : « Mon Dieu, comme toutes ces folies sont loin. »